Radio Prague, les informations.
Bonjour, la République tchèque commémore août 1968 et 1969. Selon les médias locaux, Lubomír Zaorálek est pressenti pour être le prochain ministre de la Culture. Et puis en foot, après sa victoire à Cluj, le Slavia en bonne place pour atteindre la Ligue des Champions. Ce mercredi, de nombreux événements dans tout le pays commémorent l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968, ainsi que les victimes des manifestations organisées un an plus tard, en août 69, en souvenir de ce même événement. L'association Des Millions de Moments pour la Démocratie, fer de lance des manifestations contre le gouvernement d'Andrej Babiš depuis le début de l'année, prévoit une marche à travers la ville de Prague afin de rappeler ces moments historiques, mais également pour pointer du doigt les problèmes politiques actuels. De nombreuses personnalités les Tchèques ont également participé ce mercredi en fin de matinée à la traditionnelle cérémonie du souvenir devant le bâtiment de la radio tchèque au numéro 13 de la rue Rimska. La radio avait en effet été un lieu de résistance actif en 1968 avant d'être occupée par les soldats soviétiques. Selon les sites Seznam Spravy et Novinky.cz, l'ancien ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek pourrait être le prochain ministre de la Culture. Interrogé par l'agence de presse tchèque ČTK, Lubomír Zaorálek, qui préside actuellement le comité parlementaire pour les affaires étrangères, n'a pas commenté ces spéculations. Chef de file des sociodémocrates Jan Hamáček s'était jusqu'à présent refusé à proposer des noms de candidats au poste de ministre de la Culture, mais a fait savoir mardi qu'il ferait connaître le nouveau candidat avant la réunion de la direction du parti vendredi. Premier ministre Andrej Babiš avait auparavant déclaré qu'il voulait un nouveau candidat social-démocrate au poste de ministre de la Culture d'ici la fin de la semaine. Le candidat précédent, Michal Šmarda, avait finalement renoncé à briguer ce poste lundi après que sa candidature a été refusée, notamment par le président tchèque Miloš Zeman. L'Institut d'études des régimes totalitaires a lancé une carte interactive montrant où sont tombées les victimes de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 68. La carte précise le nom des victimes, la date et le lieu de leur décès en lien avec l'entrée des troupes du pacte de Varsovie et l'occupation du pays entre août 68 et août 69. Selon l'un des auteurs de cette carte, les premières victimes de cet événement sont au début décédées dans les grandes villes du pays. Plus tard, ces décès sont davantage le résultat d'accidents de la route dans la campagne, les soldats soviétiques s'étant vus interdire l'accès aux grandes villes et s'étant retirés en région. Le ministère tchèque de la Défense va bénéficier d'une rallonge de 1,21 milliard de couronnes, portant la somme totale de son budget à 75,5 milliards pour 2020. Cette hausse de son budget a été annoncée ce mercredi par le ministre Lubomír Metnar après sa rencontre avec la ministre des Finances, Alena Schillerová. D'après le ministre, cet argent servira à divers investissements. Cette hausse permet au ministère, qui a actuellement lancé un vaste programme de modernisation de ses forces armées, de bénéficier de 8,8 milliards de couronnes de plus que pour son budget 2019. Et puis en foot, le club du Slavia Prague peut un peu plus rêver à une participation à la Ligue des Champions après sa victoire à Cluj en Roumanie 1-0 mardi soir. Le but tchèque a été marqué par Lukáš Masopust au cours de la première mi-temps. Le champion tchèque en titre recevra le club roumain en match retour mercredi prochain dans son stade d'Eden. La dernière participation du Slavia Prague à la Ligue des Champions remonte à 2007. On termine par un mot de météo. Jeudi, temps clair malgré des passages nuageux et remontée des températures avec des prévisions estivales pour tous les jours qui suivent. 24 degrés en moyenne en ce jour de fête des Bohuslaves. C'est la fin de ce bulletin d'information. La suite du programme, c'est avec Guillaume Larguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont Anna Kubišta vient de nous résumer les principaux titres et au sommaire de laquelle figure tout d'abord le 50e anniversaire des tristes événements qui se sont tenus en Tchécoslovaquie un an après l'invasion du pays et l'écrasement du printemps de Prague. Nous parlerons aussi du festival Letna, un festival devenu incontournable en Tchéquie, où le cirque nouveau ou le cirque contemporain continue son développement. Et puis enfin, comme souvent le mercredi, la seconde moitié de cette émission sera réservée à la rubrique historique, une rubrique dans laquelle il sera question cette semaine de la vie secrète d'un musée tchèque. Le 21 août 1969, soit un an jour pour jour après l'invasion de la Tchécoslovaquie et l'écrasement du printemps de Prague. Les chars ont de nouveau défilé dans les rues des grandes villes pour réduire au silence les manifestants. Mais à la différence de 1968, où ce sont les troupes du pacte de Varsovie qui s'étaient déployées, c'est cette fois l'armée tchécoslovaque qui s'est chargée elle-même de rétablir l'ordre. 5 citoyens tchécoslovaques ont alors été tués par les soldats de leur propre pays. Ce mercredi, soit donc 50 ans après, les Tchèques se souviennent de ces événements qui, depuis, sont souvent restés dans l'ombre de ceux de 1968. D'ailleurs, demander aujourd'hui à un jeune Tchèque, et peut-être même moins jeune, ce qu'évoque pour lui le 21 août 1968, et il est fort probable que celui-ci vous répondra à peu près correctement qu'il s'agit du jour de l'invasion de la Tchécoslovaquie et d'un chapitre parmi les plus tristes et marquants de l'histoire de son pays. Mais demandez-lui ce que lui inspire à la même date un an plus tard, et à moins qu'il ne s'agisse d'un étudiant en histoire contemporaine, vous n'obtiendrez tout aussi probablement qu'un silence et un haussement d'épaules en guise de réponse. Pourtant, aux yeux des opposants au régime et des historiens, ce 21 août 1969 a été un jour au moins aussi tragique que celui un an plus tôt. Historien à l'Institut de l'étude des régimes totalitaires, Milan Barta a confirmé cette vision des choses très récemment encore sur l'antenne de la radio tchèque.
Un an après l'entrée des troupes du pacte de Varsovie, il était évident qu'il s'agissait d'un affrontement décisif entre d'un côté ceux qui souhaitaient la poursuite des réformes entreprises en 1968, condamner l'occupation du pays et la politique de normalisation menée par le gouvernement dirigé par Gustav Husák, qui avait remplacé Alexander Dubček à la tête du Parti communiste, et de l'autre ceux qui souhaitaient se plier à Moscou et collaborer avec les soviétiques.
Concrètement, à Prague, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays comme Brno ou Liberec, les manifestations qui s'étaient tenues pour le premier anniversaire de l'occupation avaient été violemment réprimées par la police communiste tchécoslovaque et les funestes milices populaires qui n'avaient pas hésité à tirer sur les participants. Dans un document enregistré par Paměť národa, Mémoire de la Nation, un vaste projet en ligne qui rassemble les témoignages de personnes ayant vécu sous les régimes nazis et communistes en Tchécoslovaquie, Karel Polanecki s'était souvenu de sa participation aux manifestations à Prague en 1969.
Ce 21 août est arrivé et après le travail, je suis passé chez moi. Ma mère n'était pas là et je suis parti en ville sans laisser de message. Mon idée était de trouver un groupe de manifestants suffisamment fort pour ne pas que la police puisse le disperser et pour que je puisse exprimer mon opinion.
Mal lui en prit toutefois. Arrêté par la police, comme des centaines d'autres personnes, Karel Polanecki sera soumis à un interrogatoire violent, puis emprisonné. Pire encore, c'est le gouvernement tchécoslovaque lui-même, et non pas les forces soviétiques occupantes, qui ordonne aux miliciens de tirer sur les manifestants. Pour beaucoup, cette répression marque l'anéantissement des derniers espoirs de réforme et le véritable début de la politique dite de normalisation qui, dans l'esprit des dirigeants communistes à Prague comme à Moscou, doit permettre un retour au conservatisme d'avant le printemps de Prague. Dès le lendemain, le 22 août, une loi dite de la matraque est d'ailleurs adoptée par l'Assemblée fédérale. Cet ensemble de mesures, qui restera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1969, permet alors au corps de sécurité nationale d'avoir les mains libres pour réprimer toute forme d'opposition et lutter contre les aspirants et nostalgiques d'un socialisme à visage humain. C'est en souvenir de tous ces tristes événements que l'association Million Chvilek pro Demokracie, un million de moments pour la démocratie, à l'origine des grandes manifestations du printemps dernier contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Andrei Babiš, organise ce mercredi soir une marche qui mènera ses participants de la place Venceslas jusqu'au château de Prague. À l'occasion de ce 50e anniversaire, cette manifestation doit aussi servir à rappeler les problèmes politiques actuels. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi.
trebalo naši miri, naši samote.
On passe à un sujet plus réjouissant, le festival Letna bat son plein à Prague, où se présentent plusieurs compagnies étrangères ainsi que des représentants d'une scène nationale, du nouveau cirque toujours plus active. Pour parler du cirque contemporain en République tchèque, notre collègue de Radio Vltava, Veronika Štefanová, est l'une des mieux placées. En plus de ses reportages sur les spectacles et festivals, Veronika Štefanová collabore activement avec Cirkeon, la plateforme pragoise dédiée à cette forme de cirque apparue en France dans les années 1970. Veronika Štefanová répond aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Bonjour Veronika Štefanová.
Bonjour.
Alors c'est vous qui avez commenté pour la radio Vltava la performance exceptionnelle de cette funambule française qui s'appelle Tatiana Mosio Bonganga. En voyant ça, je me disais, c'est pas facile de commenter les championnats du monde d'escalade, mais alors commenter la performance d'une funambule qui traverse la Vltava à 35 mètres de hauteur, ça a pas dû être simple.
C'était pas simple, j'étais nerveuse au début, je me suis préparée proprement, ça m'a pris une semaine ou peut-être plus de la préparation. Avant, j'ai rencontré plusieurs fois Tatiana Mosio Bonganga. J'ai fait une entrevue avec elle pour que je puisse comprendre ce qui va se passer, qu'est-ce que ça signifie pour elle de faire ce type de spectacle. Et puis, j'ai aussi invité, par exemple, Hanush Jordan du Musée National. Il est responsable pour le cirque dans ce musée, et aussi mon collègue Petr Kadeřábek de la rédaction de sport de Radio Journal qui m'a beaucoup aidé avec ce commentaire, et je crois que ça s'est bien passé parce qu'on a obtenu des bons commentaires après.
Alors cette performance marquait le début du festival Letna à Prague qui en 16 ans, si je ne me trompe pas, est devenu un événement incontournable aujourd'hui.
C'est vrai, parce que dans le contexte européen, et non seulement européen, on pourrait dire mondial, Letna est devenu un des festivals très importants pour le cirque contemporain, parce que c'est un festival international. Cette année, il y a beaucoup de compagnies qui viennent des pays francophones, ça veut dire la France. Il y a aussi une compagnie belgique et il y a aussi une compagnie canadienne, plutôt québécoise. Et aussi...
Ce n'est pas un hasard, vous me disiez avant cet entretien, parce que le cirque contemporain, le nouveau cirque est né en France.
C'est vrai, c'était dans les années 70, je dirais, ou dans les années 80. Mais bien sûr que ça développe, ça change beaucoup et maintenant on pourrait parler que... Le cirque contemporain, on peut trouver n'importe où dans l'Europe, aussi dans l'Europe centrale, dans l'Europe de l'Est et aussi partout dans le monde entier.
Et c'est justement pour ça que je voulais vous parler à vous, à propos de la scène, non seulement en Europe centrale, mais plus particulièrement en République tchèque, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Vous faites partie vous-même du centre Cirkeon, qui est dans le quartier de Nusle et qui a beaucoup contribué à ces derniers développements.
C'est vrai. En fait, je dirais qu'un grand boom de cirque contemporain en République tchèque, c'était en 2009-2010. Et c'était comme ça parce que la compagnie Cirque La Putica était créée, où cette compagnie a présenté leur premier spectacle qui s'appelait La Putica. Et dès 2009, il y avait beaucoup de compagnies qui sont créées, par exemple Bratři v triku ou Circus Tetti. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Circus Mlein. Ça veut dire que ces compagnies que j'ai mentionnées sont vraiment importantes pour la scène de cirque contemporain tchèque. Mais il y a aussi d'autres activités, comme vous avez bien mentionné, le Cirkeon, comme le centre de cirque contemporain, qui propose par exemple les cours, des workshops, des séminaires artistiques pour les enfants, pour les adultes. On aussi donne un espace pour faire des créations, des spectacles, des cirques contemporains et beaucoup d'autres activités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'infrastructure de cirque contemporain devient bien développée, mais bien sûr, ça peut être toujours mieux. Mais c'est aussi la question de financement et de support de l'État.
À Prague, il me semble qu'il y a également de nouvelles scènes qui sont plutôt récentes, comme à Holešovice, Jatka 70 Osum.
C'est vrai. Jatka 70 Osum, c'est une scène de cirque contemporain aussi, parce que c'est un théâtre qui est qui était reconstruit et qui est utilisé par la compagnie Cirque La Putica, que j'ai déjà mentionné, et c'est bien d'avoir ce type de scènes qui sont vraiment bien concentrées au cirque, au l'art de cirque. Mais c'est pas non seulement Yad Kassadum de Saad Osum, il y a aussi par exemple Palace Acropolis qui présente le festival Circopolis, c'est aussi La Fabrica qui présente plusieurs spectacles de cirque contemporain, mais c'est vrai qu'à Yad Kassadum de Saad Osum, on peut venir voir beaucoup de spectacles de cirque contemporain, non seulement tchèque.
Et ce sera ma dernière question. Il y a aussi des événements en dehors de Prague. Bien sûr, Prague réunit beaucoup des événements de cirque contemporain, mais il y a d'autres festivals, notamment à Zdjar nad Sázavou et des villes comme ça qui ont des, si ce n'est pas des festivals consacrés entièrement au cirque contemporain, en tout cas des compagnies qui viennent se produire dans les villes de province.
Oui, merci que vous avez bien mentionné Zdjar nad Sázavou et le festival Correspondance. C'est vrai que le cirque devient une partie très forte des festivals de la danse contemporaine, de théâtre physique, du théâtre en général. C'est non seulement Zdjar nad Sázavou, c'est aussi Trutnov, parce qu'à Trutnov, on peut trouver le festival international de cirque contemporain qui s'appelle Cirque Ouf. Mais aussi à Ostrava, on peut trouver cet espace, ce théâtre culture qui présente aussi le spectacle de cirque. À Brno, on peut voir de temps en temps aussi des spectacles de cirque contemporain, donc, et aussi à Pilsen, donc ça développe.
Véronika Štefanová, merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Notre émission se poursuit avec, comme souvent le mercredi, la rubrique historique. Derrière les collections que les visiteurs peuvent découvrir dans les musées se cache, vous vous en doutez, un immense travail. Il convient en effet de rassembler et de sélectionner les objets, parfois de les restaurer, de les identifier, de les contextualiser ou encore de leur donner un sens. C'est ce processus que le Musée National invite à mieux connaître à travers sa nouvelle exposition, une exposition intitulée « La vie secrète des collections » visible à Prague au sein de son bâtiment historique tout récemment restauré jusqu'au cœur de l'automne. Cette rubrique a été préparée comme d'habitude par Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire. En soi, c'est un motif valable pour visiter le bâtiment historique du Musée national à Prague. Après 7 années de travaux, cet édifice emblématique de la capitale tchèque, construit en 1891, s'est offert une nouvelle jeunesse et a rouvert progressivement ses portes au public à partir du mois d'octobre de l'année passée. Quant au Musée national, institution muséale la plus importante du pays, il est plus ancien encore puisque sa création remonte à l'année 1818. À l'époque, il se nommait Vlastenecké muzeum v Čechách, c'est-à-dire musée patriote en Bohême, et ce sont largement des particuliers qui ont contribué dans un premier temps à alimenter son fonds naissant en y déposant leurs propres objets. L'exposition « La vie secrète des collections » permet précisément de comprendre comment un musée acquiert et gère les objets qu'il montre à ses visiteurs, et d'après l'historien Marek Junek, qui dirige le musée historique, l'une des 5 composantes principale du musée national, les choses n'ont pas tellement changé en 2 siècles.
Cette façon d'acquérir des objets est en fait restée la même, car les gens ne cessent de venir au musée et d'y offrir leurs propres objets ou des documents d'époque. Et cela reste une partie de nos collections. Ensuite, nous achetons bien sûr des objets. Ce sont des choses qui ont, par exemple, trait à l'évolution de l'État tchèque, ou bien à des personnalités tchèques importantes. Il y a 3 mois, nous avons par exemple acquis des objets liés à la succession de Hanna Benešová, que nous avons fait venir des États-Unis d'Amérique. Après, des curateurs présentent aussi leurs propres collections.
Takže ty cesty jsou samozřejmě různé. A potom kurátoři provádí i vlastní sběr.
Marek Junek explique que dernièrement, le musée a rassemblé toute une série de pancartes brandies dans les manifestations organisées ces dernières années en République tchèque, une collection qui rejoint l'actualité brûlante puisque le début de cette année 2019 a été marqué par des rassemblements d'une ampleur rarement vue depuis la révolution de velours pour protester contre le Premier ministre Andrei Babiš. De fait, les domaines couverts par le musée historique sont très vastes.
My dokumentujeme velmi často každodennost, pokud jde o
souvent, nous documentons la vie de tous les jours, la vie quotidienne des habitants de la République tchèque. Et les visiteurs peuvent donc nous faire des dons, des objets les plus divers. Ce sont par exemple des biens électroménagers ou d'autres biens répondant à des besoins personnels. Nous avons également un grand département sportif et nous documentons donc l'évolution du sport sur le territoire de la République tchèque. Il y a un département numismatique qui documente l'évolution de la monnaie. Nous avons les biens subsistants de personnalité, nous documentons les grands événements de l'histoire et aussi l'évolution des grandes institutions.
Le musée historique a ainsi vocation à recueillir de très nombreux objets sans limite de temps, l'idée étant de conserver une image de la société présente pour les générations futures. Cependant, quand bien même tout objet représente un témoignage de son époque, qu'il peut potentiellement faire l'objet d'un discours savant et être mis en relation avec d'autres objets, les capacités de stockage d'un musée sont limitées. De surcroît, les orientations privilégiées par une telle institution muséale impliquent que tous les objets ne sont pas indistinctement au centre de son intérêt. En d'autres termes, il faut faire des choix quand un particulier se propose d'enrichir la collection du musée. Marek Junek détaille.
En premier lieu, c'est la charge du curateur de juger si l'objet est profitable à une collection et s'il l'enrichit. Ensuite, il y a un corps consultatif dans le domaine concerné, une commission, qui indique si le don ou l'achat envisagé répond à toutes les attentes afin que l'objet puisse intégrer une collection. Quand le don est accepté, les objets d'une collection passent entre les mains d'un documentaliste qui les décrit et les identifie. Ils sont ensuite apportés à Terezín, où se retrouve le dépôt central du musée historique.
Une fois entreposé, le parcours de l'objet devenu partie intégrante d'une collection est cependant loin d'être terminé.
Cela dépend après de l'état dans lequel se trouve l'objet. Si nous suspectons l'objet d'être sujet à des moisissures ou bien à des parasites, ce qui peut également arriver, alors nous devons le placer dans une chambre spéciale où nous le séchons. Pour chaque objet, les restaurateurs construisent ensuite un emballage particulier et le curateur le stocke finalement dans son emplacement au dépôt. L'objet attendra là le moment où le curateur le choisira pour une exposition ou bien où un chercheur voudra l'examiner.
Quand on est ainsi un objet membre d'une collection, sauf exception, il faut apprendre la patience, car on a toutes les chances de ronger son frein longtemps, bien rangé sur l'étal de son dépôt, avant de pouvoir en sortir. Combien d'objets connaissent ce bonheur? Martin Junek répond.
Il y en a très peu, car le musée historique compte plus de 2 millions d'objets dans ses collections. Et, dans nos expositions, nous ne pouvons en montrer qu'un très faible pourcentage. Chaque année, nous exposons autour de 2000 objets. Mais le musée national prête aussi ses objets à de nombreux endroits en République tchèque et à l'étranger. Le musée historique représente la plus grande partie du musée national et nous prêtons chaque année nos objets à quelques 500 institutions.
Et les collections du musée ne cessent de s'agrandir. Pour 2017 et 2018, 5000 nouveaux objets les ont rejointes. Le chiffre devrait être plus impressionnant encore pour l'année en cours, puisque rien que pour le département en charge du sport, 2000 artefacts devraient venir prochainement grossir les rayons. Ce sont précisément certains des objets les plus récemment entrés dans les catalogues du musée national qui sont présentés au public dans le cadre de l'exposition « La vie secrète des collections ». Martina Junek fait les présentations.
Ce sont des objets qui se rapportent par exemple à la numismatique, aux pièces antiques. Il y a ici des objets qui proviennent également de départements qui s'occupent du théâtre. Nos collègues ont obtenu, il y a près de 2 ans, des biens ayant appartenu à l'actrice Jina Iraskova. Des choses un peu absurdes atterrissent parfois au musée. Par exemple, la dernière cigarette qu'elle n'a pas terminée. C'est le genre d'objet autour duquel nous pouvons toutefois ensuite raconter une histoire.
Des objets de ce type et les histoires qui vont avec sont donc à découvrir jusqu'au 31 octobre prochain au bâtiment historique du Musée national à Prague.
« Voilà, on arrive lentement mais sûrement au terme de cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Au revoir.